Exode 32, 1. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous vous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » 32, 7 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, « Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit, « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, « C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer de dessus la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit en jurant par toi-même, « Je multiplierai votre postérité comme les étoiles du ciel et je donnerai à vos descendants tout ce peuple dont j'ai parlé et ils les posséderont à jamais. » Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Exode 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché. Sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple où je t'ai dit. Voici, mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau fabriqué par Aaron. Merci Seigneur de bénir ta parole et ton serviteur Seigneur qui va la porter. En ton précieux nom Jésus, je prie. Amen.
Parole de l'Écriture pour le peuple du Seigneur. Une entrée fracassante malgré moi. Et en faisant une lecture tantôt en arrière, j'ai oublié de prendre ma Bible. Elle est quelque part en arrière. Il y a une feuille blanche dedans sur laquelle il est écrit tout le message. Donc, ce serait utile. Donc, tout d'abord, je veux remercier le Seigneur vraiment pour le message de la semaine dernière qui a été délivré par notre pasteur Félix Poléus. Le Seigneur m'a touché dans mes entrailles. C'est venu me chercher, ça m'a transcendé. Merci beaucoup. Et je remercie le Seigneur pour ça, d'être nourri comme cela par lui dans cette assemblée de manière grandiose et phénoménale. Aujourd'hui, ce que j'ai à cœur de vous partager, c'est un passage, le passage qu'on a lu tantôt, c'est un passage sur lequel je médite depuis une trentaine d'années. Mais à chaque fois que je m'attarde sur ce passage, j'ai l'impression que je ne fais que débuter. Alors, ce matin, je vais faire mes débuts. Et puis, vous savez, on offre toujours notre grâce à celui qui débute. Hein? Bon, je compte sur vous aussi. Donc, le but de ce passage, parce que pasteur Claire voit, Dieu lui avait mis à cœur qu'on puisse entrer dans un mois de prière. Un mois de prière où ce que la prière serait à l'avant-plan dans toutes nos activités, que ce soit ici, dans nos demeures respectives. C'est un nouveau membre, il vient juste de signer. Donc, alors comme je disais, Dieu a mis sur le cœur de pasteur Emmanuel qu'on puisse entrer en prière, pour qu'on puisse vraiment intercéder les uns pour les autres. Faites connaître nos besoins au Seigneur, les besoins de nos amis, de notre famille, de nos assemblées, d'intercéder aussi pour le Québec, d'intercéder pour le pays afin que Dieu puisse accorder ses faveurs, ses grâces au pays entier. Donc, je pense aussi que Dieu veut renouveler notre vie de prière aussi. Et c'est une dimension qui est tellement importante dans la vie chrétienne. Je disais, il faut accorder sa grâce aux débutants. Hein? C'était de Dieu, ça. Hein? Le Seigneur bénisse ce petit cri de louange qu'il vient de faire là. Donc, le but de la prédication de ce matin, ce n'est pas pour tirer toute la théologie que ces versets-là peuvent nous démontrer, mais tout simplement par quelques observations, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de vous partager, dans l'espoir que vous allez être richement bénis, dans l'espoir que vous vous sentez interpellés par le message qu'il y a dans ce passage aussi. Donc, dans ce mois de prière, il y a une dimension de la prière qui est tellement importante. Cette dimension, on l'appelle la plaidoirie, savoir plaider devant Dieu. Et c'est ce que notre sœur tantôt a lu, une plaidoirie de Moïse. Qui a appris Moïse à plaider dans cette dimension-là? Je ne le sais. Mais qu'est-ce qu'on sait? On sait que Moïse connaît le cœur de Dieu. Il connaît la pensée de Dieu. Il connaît les vibrations du cœur de Dieu. Et en ce sens, il peut se présenter devant Dieu non seulement comme le représentant d'Israël. N'oubliez pas, Moïse a été établi par Dieu comme roi d'Israël. Mais aussi, il se présente devant Dieu tout en s'humiliant. Pasteur Poléus me disait ce matin, lorsqu'on fait la plaidoirie, on doit exposer notre vulnérabilité devant Dieu. Et ça, c'est très important. L'attitude compte plus que tous les arguments qu'on peut étaler devant notre Seigneur. Et pour cela, j'aimerais qu'on lise ensemble Exode 6 et les versets 6 et 7, Exode 6. Et dans le contexte, nous savons que Israël a été en captivité pendant plus de 400 ans, et qu'ils ont été la main-d'œuvre gratuite de l'Égypte. L'Égypte a même bâti son économie sur la main-d'œuvre gratuite de ses esclaves. Et l'histoire s'est répétée aussi. Il y a eu des pays qui ont bâti leur économie sur la sueur des esclaves. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lisons Exode 6, 7. C'est pourquoi, et Dieu parle à Moïse, dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Il y a cette déclaration de Dieu. Tu es mon peuple. C'est une déclaration qui a une dimension sacrée là-dedans. Il y a une dimension solennelle là-dedans. Tu es mon peuple. Tu es l'objet de tout mon amour. Tu es l'objet de mon affection. Tu es mon peuple. Tu es l'objet de ma bienveillance. Tu es l'objet de ma protection. Tu es mon peuple. Je te donne mon nom. Je t'accorde de porter mon nom. Il n'y a rien de plus intime et personnel que le nom de quelqu'un. Tu es mon peuple. Je serai toujours à tes côtés. Il y a toute cette dimension dans cette déclaration de Dieu. Et voilà que le peuple s'est vautré de nouveau dans l'idolâtrie. C'est un peuple qui est coupable. Aucune circonstance atténuante. Même lorsqu'on regarde le verset 1, on voit tout le mépris qu'ils ont dans leur cœur. Il dit, mais où est-il ce Moïse, cet homme, cet individu-là? En d'autres termes, ça fait un petit bout de temps qu'on ne l'a pas vu, il n'est plus dans le décor, Moïse. Où est ce Moïse? On parle de manière, avec un sarcasme condescendant. Drôle de manière de parler de celui par qui Dieu les a délivrés de la servitude de l'Égypte. Drôle de manière de parler de son berger, de son pasteur, de son conducteur. Drôle de manière de parler de celui par qui Dieu leur a parlé. Vous savez, être un berger, un conducteur, on peut l'être tout en étant impopulaire aux yeux de ceux qui en l'est. Il est très impopulaire ici, Moïse. Personne ne se lève pour défendre sa cause. Peu importe. Dieu, lorsqu'il appelle quelqu'un, il s'en fiche complètement de sa popularité, que ce soit dans l'Assemblée ou, à plus forte raison, que ce soit dans le monde. Il appelle par pur plaisir, selon le conseil de sa propre volonté. Mais qui a appris à Moïse de plaider? Je n'ai pas de technique à vous donner pour plaider, mais je peux vous parler de certaines attitudes. La plaidoirie, c'est un cœur à cœur avec Dieu. C'est Dieu lui-même. Personne ne peut venir devant Dieu et plaider. Pour ça, ça prend une invitation de Dieu. Il l'a fait par le prophète Isaïe. Venez et plaidons. Et Dieu va livrer son cœur, Moïse aussi va livrer son cœur. C'est un cœur à cœur. Dieu va faire connaître son état d'âme à Moïse. En d'autres termes, Dieu nous invite, il dit, venez, venez, on va se parler, on va discuter sur les choses. Si vous avez un désaccord, faites-le moi connaître. Moi aussi, je te ferai connaître mes désaccords. On va essayer de trouver un terrain d'entente. Venez et plaidons. J'écouterai ce que tu as à me dire. Et toi aussi, tu écouteras ce que j'ai à te dire. Ce peuple, malgré les prodiges qui ont été faits devant lui, des actes providentiels inouïs, des miracles inédits, impressionnants. Son cœur demeure incorrigible, incurable. Et en plus de ça, il y a une sorte d'anachronisme dans le texte. Tiens, tiens, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ce mot-là, anachronisme? Vous n'avez pas besoin d'ouvrir vos dictionnaires ambulants. J'ai une définition pour vous. Un anachronisme, c'est Anna qui a des problèmes chroniques. Regardez bien. Le peuple était sorti de l'Égypte bien avant la fabrication du veau d'or. Dieu l'avait déjà, par Moïse, libéré de l'Égypte. Et c'est après avoir été libéré que le peuple va se fabriquer un Dieu. Il va dire, voici ton Dieu qui t'a libéré de l'Égypte. Mais là, il y a un problème. Là. C'est... Non seulement ils ont un problème dans le cœur, mais le mental aussi, ça ne suit pas. Ils ont un problème entre les deux oreilles. On a un problème chronique ici, là. C'est l'état du cœur de l'homme lorsqu'il est dans le péché. Et Pasteur Jeff a une expression pour le dire. Sans la grâce de Dieu, on est pourri à l'os. Pourri jusque dans la racine, jusque dans la moelle. C'est un peuple coupable. Aucune circonstance atténuante. Moïse ne peut même pas plaider, c'est des anciens esclaves, leur éducation n'était pas encore complète. Non, ils ont vu des miracles de Dieu incroyables. L'homme. Mais Moïse, il va s'avancer devant Dieu. Et Dieu lui parle. Dieu lui dit, voici, ton peuple s'est corrompu. Alors Dieu ne dit plus mon peuple. Dieu prend ses distances. Ton peuple, Moïse, que tu as délivré, s'est corrompu. Le peuple que Dieu avait appelé devant Pharaon, mon fils, il dit, c'est le peuple de Moïse. Et lorsqu'on suit toute la lecture, on voit que Dieu va parler de ce peuple. Il ne parle plus de mon peuple, ce peuple. À un moment donné, il dit, ah, ce peuple à la nuque raide. Il semble que Dieu en a marre. Et c'est pour ça qu'il faut... Vous savez, Dieu n'est pas un genre de machine à calculer, une calculatrice qui contrôle ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. Il a une personnalité, il a un cœur, il a une vie émotionnelle aussi. Il y a des choses qui lui plaisent, il y a des choses aussi qui lui déplaisent, qui l'outragent, il y a des choses qui l'irritent. Dieu a une allergie viscérale face au péché et l'idolâtrie, entre autres. Il n'est pas une machine à calculer. Il n'est pas un robot qui contrôle ce qui est bien et ce qui est mal. Moïse va remettre les choses en place. Il va dire, non, 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 Dieu, ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas mon peuple. C'est ton peuple que toi, tu as délivré. Ce n'est pas moi qui l'ai délivré, ce peuple-là. C'est ton peuple. On s'entend là-dessus, OK? Moïse va prendre trois arguments. Premièrement, il va dire, pourquoi sauver et détruire? Pour ensuite détruire. Pourquoi tu as fait tout ce chemin-là avec ce peuple? Pour qu'il finisse par la destruction. Quelle est la logique là-dedans, Seigneur? Après ça, il va dire, mais les Égyptiens, eux autres, qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont rire de toi, Seigneur. Ils vont dire, tu as fait tout ça pour rien, tu as même ouvert la mer pour eux pour rien. Tous les miracles que tu as fait, c'est pour rien du tout. Où est ta gloire de tout cela? Moïse va aussi rappeler les promesses de Dieu. Parce que Dieu a dit, nous l'avons lu tantôt, Dieu a dit à Moïse, je vais faire table rase de ce peuple. Je vais les rayer de la carte, je vais les exterminer. Le mot est fort, mais c'est la réaction de Dieu face à l'incrédulité et face à l'idolâtrie. D'oser le déplacer dans un veau d'or. Je vais les brûler, ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les détruire. Mais avec toi, Moïse, je vais faire une grande nation de toi. On va recommencer à zéro avec toi. Je vais faire mon alliance avec toi. Là, ici, Moïse voit s'offrir de l'or pur sur un plateau d'argent. Une proposition extraordinaire de Dieu. Et ainsi, Dieu ne serait plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, parce qu'il avait renouvelé son alliance qu'il avait faite avec Abraham. Il l'a renouvelé avec Jacob, il l'a renouvelé avec Isaac. Ainsi, Dieu deviendrait le Dieu de Moïse, le Dieu de Gershon, le fils de Moïse. Et le Dieu d'Éliézer, l'autre fils de Moïse. Et peut-être dis-je bien, qu'ils pourraient penser à ce qu'ils deviennent, que Christ devienne leur postérité. C'est une offre sur un plateau d'argent. Moïse n'a même pas commenté cette offre-là. Il a une mission dans sa plaidoirie. C'est d'obtenir le pardon de Dieu pour ce peuple. Moïse va jusqu'à dire, si tu ne pardonnes pas à ce peuple, efface mon nom du livre du salut, du livre de vie. Drôle de déclaration. Ça. Et ce qui me surprend le plus, que je n'arrive pas à comprendre, un homme qui se tient devant Dieu ose demander à Dieu de se repentir. Il ose demander à Dieu de changer d'idée. Il doit savoir quelque chose de Dieu. Il n'est pas impossible que Dieu se repente. Ce n'est pas ça que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit « Dieu n'est pas comme un homme pour se repentir. » Donc, la repentance de Dieu n'est pas comme la repentance de l'homme. Elle est à un autre niveau. Et c'est ce qu'on va voir tantôt. « Efface mon nom du livre de vie. » Drôle d'idée. En sachant que même si Dieu effacerait son nom, ça ne sauverait pas le peuple. Merci Mathieu. Merci pour les louanges, Mathieu. Pour une première fois, je vais en boire, parce que je dois, à un certain âge, on doit mesurer la quantité d'eau, comprends. Merci. D'où ça lui sort cette idée-là? Une drôle d'idée, efface-moi mon nom du livre de vie. Si tu ne les pardonnes pas, c'est... Moi, je trouve ça drôle comme idée. D'où est-ce qu'il peut bien prendre ça? Je me dis peut-être, parce que la parole de Dieu ne le dit pas, peut-être qu'il a en mémoire la plaidoirie d'Abraham. Vous vous souvenez, Abraham? Si à 50 juste, je ne détruirai pas la ville. Il y a eu une négociation. Abraham dit, Seigneur, ne te fâche pas. S'il y en a 5 de moins, est-ce que ça tient toujours? OK, pour 45. Le décompte s'est arrivé jusqu'à 10. Finalement, Abraham a dû quitter et puis Dieu s'en est allé. Peut-être que Moïse s'est dit, s'il y a un juste qui se tient à côté du peuple, Dieu ne fera pas mourir le peuple. Il n'est pas celui qui fait mourir le juste et le méchant, disait Abraham. C'est une idée comme cela. Moïse est d'une qualité rare, exceptionnelle. C'est un leader dont tous les pasteurs du monde entier peuvent s'en inspirer. Il est de la crème des leaders. Il est une exception. Il est une étoile rare qui peut passer à tous les 10 000 ans dans le firmament. On va voir la rareté de cet homme. Lisons ensemble Ézéchiel 22, les versets, je pense que c'est 28, 22 à 28. Ézéchiel. Je vous mets dans le contexte, le peuple est entré encore dans l'idolâtrie. Les enseignants, les sacrificateurs qui doivent enseigner le peuple, eh bien, eux autres, ils sont un mauvais exemple. Israël est sous un mauvais leadership. Et puis, regardez ce que Dieu va dire, Ézéchiel. Et ces prophètes, pour eux, est-ce que tu peux rapetir? OK, non, c'est bon, reste là, je vais aller. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Et voici le verset qui nous intéresse. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je me sens interpellé par ce texte. Je ne sais pas si vous vous sentez interpellé. Est-ce que Dieu suscitera-t-il parmi nous ici quelqu'un qui va se tenir devant sa face pour intercéder pour notre pays, intercéder pour nos amis, pour intercéder pour ceux qui ont besoin de guérison? Trouvera-t-il un homme ici pour cela? Trouvera-t-il dans cette assemblée une femme? Dieu cherche. Lorsqu'on dit que Dieu cherche, c'est parce que la chose qu'il cherche est rare. Lorsqu'on dit que Dieu se cherche de vrais adorateurs, c'est parce que être un vrai adorateur, c'est une denrée rare. Et si Dieu se cherche une assemblée, il va se tenir devant lui pour intercéder. Donc, comme je disais tantôt, Moïse n'a même pas commenté l'offre que Dieu lui fait de faire une nouvelle alliance. Il va implorer le Seigneur. Il se tient. Il est cet homme qui se tient devant Dieu. Et pourquoi il refuse une telle offre? Comme je dis tantôt, c'est de l'or pur sur un plateau d'argent. Parce qu'il connaît quelque chose de Dieu. Pas une information, mais il le connaît. Qu'est-ce qu'il connaît? C'est la fidélité de ce Dieu. Il rappelle à Dieu l'alliance que tu as faite avec Abraham, et que tu as réitéré avec les héritiers de cette alliance, Isaac et Jacob. Regardez ce que Moïse va écrire plus tard dans le Lévitique concernant la fidélité de Dieu. Si on peut aller, pas Lévitique, excusez, Deutéronome plutôt, et 7, Deutéronome 7, verset 9. Il écrit, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. » Je répète, « Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. » Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. C'est le Dieu qui garde ses alliances. En passant, une alliance, c'est une proposition que Dieu va faire à l'homme ou aux hommes. C'est toujours Dieu qui fait une proposition, jamais le contraire. Et les deux parties doivent s'entendre. Moïse sait que Dieu est tenu par serment. Il a fait une alliance sous une base inconditionnelle à Abraham. Ceux qui ont lu le contenu de cette alliance, vous allez voir, il n'y avait aucune condition que Dieu avait donnée à Abraham. Il connaît le cœur de Dieu. Et il s'en sert comme argument. Finalement, qu'est-ce que Moïse fait pour plaider pour le peuple? Il n'y a rien qu'il peut trouver dans le peuple qui peut être un poids dans sa plaidoirie. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fouille qu'en Dieu, il plaide en Dieu. Il ne parle pas du peuple, là. Il cherche les arguments en Dieu. Il cherche les arguments dans son amour. Il cherche les arguments dans sa miséricorde. Savoir plaider, c'est un art aussi. On est dans un mois de prière. Sachons plaider pour nos frères et sœurs. Sachons même plaider pour les personnes qui ne nous aiment pas. Le peuple n'aimait pas trop Moïse, d'après ce qu'on voit qu'ils disent de Moïse. Sachons trouver des arguments de la bonté de Dieu pour intercéder et plaider la cause d'un autre. Lorsqu'on plaide pour quelqu'un, ce n'est pas parce que cette personne est innocente. Ce n'est pas comme dans nos cours de justice, on croit qu'il est innocent et puis on se paie un avocat. C'est malgré l'état coupable de la personne. Tu as un cœur de compassion et tu vas plaider pour sa cause devant Dieu. Peut-être tu dis, « Seigneur, je n'ai pas des arguments aussi puissants comme Moïse. » Mais n'oubliez pas, nous avons un intercesseur dans le ciel. Nous avons un avocat aussi qui plaide pour nous dans le ciel, qui va renforcer tout ce qu'on dit, qui va ajouter du plomb à notre plaidoirie. Plaider pour un couple qui s'en va à la dérive. « Seigneur, je te les mets devant toi. » Si tu n'interviens pas, ça va finir par une déchirure, un divorce avec des enfants séparés. Je viens plaider pour cela. Et l'Église a le mandat de le faire et l'Église a le Saint-Esprit aussi pour le faire. Moïse a plaidé pour le pardon. L'a-t-il obtenu? L'a-t-il obtenu? Est-ce que nous pouvons lire le livre des Nombres, 14, verset 19? Il dit, Moïse qui parle à Dieu, pardonne l'iniquité de ce peuple selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et voici la réponse de Dieu. Et l'Éternel dit, « Je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. » Il a cherché dans la gloire de Dieu. Mais où est ta gloire? N'oubliez pas, Moïse voulait voir une parcelle de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? lorsque tu me verras passer, après que je passe, tu regarderas et ma grâce, je te l'accorderai. La gloire de Dieu, c'est sa grâce. Moïse, il refuse l'offre de Dieu. Il prend le peuple qui est sous le jugement de Dieu, sous le principe du jugement de Dieu ou de la justice de Dieu, ben, tout le monde est coupable. Ce peuple est coupable. Moïse prend ce peuple, il le sort du jugement de Dieu par son intercession et il va placer ce peuple sous la miséricorde de Dieu. Sous le principe de la justice de Dieu, personne ne tient. Lisons le psaume 143, les versets 1 et 2. Le psaume de David. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Exauce-moi dans ta fidélité et dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. Vous savez, Dieu qui est prêt à s'enflammer, brûler même un peuple, on pourrait dire c'est un Dieu méchant. Pas du tout. Je vais faire une illustration et puis vous allez mieux comprendre. Il est prêt à brûler un peuple. Dieu, dans sa sainteté, est comme une toute petite flamme. Toute petite, toute petite, toute petite. Et lorsqu'un pécheur s'approche de cette flamme sans Jésus-Christ, il est comme quelqu'un qui s'approche de cette flamme avec des gallons d'essence remplis jusqu'au coton. Et l'essence avec le feu, qu'est-ce que ça va faire? La flamme n'est pas méchante. Mais il ne tolère pas la présence de l'essence. C'est ainsi nous sommes. Lorsque sans Jésus-Christ, nous nous présentons devant Dieu, on est rempli gallon d'essence et puis on s'approche du feu de sa sainteté. Nous l'avons lu tantôt, Dieu cherche un homme, il n'en trouve pas. Ici, aucun homme n'est juste devant Dieu. Ce que l'apôtre Paul va réitérer plus tard lorsqu'il va dire « selon qu'il est écrit », il est aussi écrit cela dans le psaume 53. Aucune personne n'est juste devant Dieu. Aucun homme ne se tient devant Dieu pour intercéder pour le pays. Aucun juste devant lui. Et il est vital que Dieu trouve un juste. Et Dieu va lui-même faire la provision pour nous. En nous envoyant Jésus-Christ, le juste. Jésus-Christ, il n'est pas seulement, nous sommes justifiés. Le juste, c'est celui qui vit par la foi. En tant qu'homme sur cette terre, il a vécu par la foi de tout ce que les Saintes Écritures ont déclaré. Mais il était aussi juste dans sa personne et dans son caractère. Toutes ses voix étaient justes, toutes ses pensées étaient justes, ses actions étaient justes, ses dires étaient justes. Tout était juste devant Dieu. Est-ce que Dieu fera périr le méchant et le juste? Et Abraham dit, t'es pas de ce genre-là, Seigneur. Tu n'exerces pas ta justice comme ça. Et le juste et le méchant périront sur la croix. Le Seigneur, entouré de deux brigands, parce que c'était le plan de Dieu pour notre salut. Le juste et le méchant mourront ensemble. Ce que Abraham dit, tu n'es pas de ce genre-là, Seigneur. Qui va se tenir devant Dieu pour l'humanité? Il y a une plaidoirie, la plus grande de toutes les plaidoiries, très courte, mais la plus grande de toutes les plaidoiries. Le Seigneur s'est tenu devant la face de son Père sur la croix. Il a plaidé pour l'humanité. Père, Père, pardonne-leur. Lui aussi a plaidé pour le pardon des hommes et des femmes. Pardonne-leur. Et voici sa plaidoirie, car ils ne savent ce qu'ils font. Moi, Pierre Véricain, je le confesse, je suis coupable devant Dieu de la plus grande des culpabilités. Mais aussi, je rends témoignage que j'ai obtenu sa grâce parce que Jésus-Christ a plaidé pour ma cause sur la croix. Et je remercie le Seigneur. Mon cœur est reconnaissant. Oui, reconnaissant. Celui qui est infiniment grand vient mourir pour les infiniment petits que nous sommes devant lui. Nous sommes infiniment petits devant Dieu. Il est ce juste que Dieu a trouvé et que lui-même en a fait provision. Il a plaidé pour nous. Sa plaidoirie n'était pas seulement pour ses bourreaux qui allaient le clouer sur la croix. C'est une plaidoirie qui traverse le temps et l'espace, toutes les générations. Parce que je faisais partie des gens qui ont pris le marteau et qui l'ont frappé par mes péchés. Par vos péchés et les miens. Nous avons participé à l'exécution du seul juste, le juste. Et cette plaidoirie de notre Seigneur Jésus-Christ était indispensable pour qu'il y ait la possibilité de salut. Il faut que Dieu nous pardonne de ce crime odieux d'avoir cloué son fils sur la croix. C'est toute l'humanité qui est coupable de ce crime. Ce n'est pas les Romains seulement. C'est à cause de nos péchés. Dieu a mis sur lui, il a pris le fardeau de notre iniquité. Il a fait venir sur lui. Et ainsi, est-ce que Dieu, lorsqu'il a parlé à Abraham, « Si je trouve jusqu'à 10 justes, je ne vais pas détruire. Si je trouve un seul juste, je ne détruirai pas la terre. » Un seul, le juste. Notre reconnaissance doit être grande. Intercédons les uns pour les autres, plaidons les uns pour les autres. Et la parole de Dieu nous dit, et le Seigneur continue à intercéder. Il avait intercédé pour ses disciples et pour nous aussi, la veille de sa crucifixion, la prière dite sacerdotale. Il avait dit, « Père, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné. » Ça m'a toujours, il ne prie pas pour le monde, lui, là. Ça, c'est bizarre. C'est ce qu'il a dit. Je ne prie pas pour le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce que pour lui, il connaît ce que Dieu lui a donné et ce qui ne lui appartient pas. Il n'a pas de temps à perdre pour prier pour ce que Dieu ne lui a pas donné. Je ne prie que seulement pour ce que tu m'as donné. Nous, nous prions pour tout le monde parce que nous ne connaissons pas qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Nous semons tout partout, mais lui, il le sait. Je ne prie pas pour le monde. Il a prié pour nous, il a intercédé pour nous. Il dit non seulement pour les disciples, mais pour ceux qui croiront. Et il continue à le faire dans le ciel, continue à intercéder. Ils citent nos noms personnels devant Dieu. Ce que j'aime avec mon Dieu, il n'a pas de problème de temps, lui. Oh, on n'a pas le temps de passer du temps en prière. On est bousculé par la vie. J'ai mon travail quand même. C'est quand même mon gagne-pain. On l'a chanté tantôt, les chants. Notre chant de ce matin, nous l'a chanté. Il intercède toujours. Il continue à intercéder pour nous. Afin qu'on comprenne avec qui on a affaire. J'étais très ému lorsque je vois Pasteur Jeff affaibli dans la condition qu'il est, mais intercéder pour l'Église. Il a prié pour les bouts de choux cette semaine pour que Dieu sauve tous les petits bouts de choux de l'Église. Il a prié pour que l'Église soit remplie du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis de son Esprit. Remplis du Saint-Esprit, ça veut dire que nous ne compterons plus sur notre force, mais sur la force et la puissance de l'Esprit qui habite en nous. Tout ministère a besoin de cela. Ce n'est pas le génie humain qui donne le succès, ce n'est même pas l'intelligence. C'est lorsque la puissance de l'Esprit nous habite. Il a prié pour cela. Ma femme a passé du temps avec lui l'autre jour lorsqu'il y a eu les funérailles. Et puis, ma femme était émue de compassion. Il dit, il ne fait que parler de la parole de Dieu. Il me dit combien il prie pour l'Église tous les jours, tous les jours. Il est affecté certainement par la maladie. La maladie peut attaquer toutes les sphères de notre vie. Toutes les cellules de notre corps peuvent faire défection devant la maladie. Tout, tout, tout. Il n'y a pas un petit bout de notre corps qui peut être... Mais ça n'a pas touché sa foi. Ça n'a pas touché sa passion de l'Évangile. Je suis ému. J'ai connu Pasteur Jeff dans des temps de gloire, où ce que Dieu manifestait, je l'ai vu en Haïti, j'ai vu l'œuvre que Dieu a fait à travers la Bible, je l'ai vu en Afrique, je l'ai vu. Mais c'est maintenant que mon cœur est le plus touché. Lorsque je vois un homme affaibli, amaigri, et même des fois qui n'a pas trop la suite dans les idées, continue à parler de l'Évangile. Ça me touche. S'il intercède pour nous, nous aussi, nous allons planquer notre face devant Dieu pour intercéder pour lui et nous allons l'accompagner jusqu'au bout du chemin. Dieu a prié. Avait pris cette distance avec le peuple. Moïse va dire, « Repens-toi, Seigneur. » Change d'idée. Et Moïse va avoir gain de cause. On l'a lu. Et l'Éternel change d'idée. Il se repent du malheur qu'il allait faire à son peuple. C'est quoi la repentance de Dieu? Ça, c'est moi qui le dis, ça vaut ce que ça vaut. Lorsqu'un homme doit se repentir, l'homme doit changer de conduite. L'homme doit changer de direction. L'homme doit abandonner des pratiques. Il doit se détourner de ses mauvaises voies. L'homme doit vraiment se repentir pour obtenir ce pardon-là. Et lorsque c'est Dieu qui se repent, C'est Dieu qui change de disposition de cœur pour pardonner aux coupables. Je change d'idée. Je les pardonne. C'est ça la repentance de Dieu. Je change d'idée. Vous savez, pendant notre semaine de prière, il y a un verset, c'est pas écrit en diaspora, je pense, si ma mémoire est fidèle, Isaïe 65, le verset 8. Et puis, ça nous a bénis parce que tout le monde est revenu sur ce verset-là à tour de rôle. Écoutez ce que... C'est toujours dans le même concept et dans les mêmes circonstances où ce que le peuple ne suit pas Dieu et Dieu va faire des rétributions. Il dit « Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit « Ne la détruis pas, car il y a là une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs, afin de ne pas tout détruire. » J'aime cette expression, il a une petite connotation québécoise, lorsqu'il y a encore du jus dans la grappe. J'aime ça. Il y a encore du jus dans la grappe. C'est vous autres le jus. Oui. Pour vous, c'est vrai que nous sommes encore ici sous le gouvernement moral de Dieu. Dans le gouvernement moral de Dieu, il n'y a personne qui tient. C'est la destruction. C'est aussi simple. Si Dieu vient juger sur le principe de sa justice, voilà le verdict. Je vais m'enflammer, je vais les détruire. C'est Dieu dans son gouvernement moral. Mais Dieu dans l'Évangile est tout autre. Dieu, dans son gouvernement moral, il est prêt à effacer le nom du pécheur. Il l'a dit à Moïse. Moïse, toi, tu n'as pas péché, je n'efface pas ton nom. Non pas que Moïse n'avait aucun péché dans sa vie, mais le péché, ce péché de l'idolâtrie, ce péché de l'incrédulité, Moïse n'a pas participé. Il dit, ceux qui ont péché, je vais effacer leur nom du livre du salut. C'est ce qu'on a lu tantôt. C'est ça le gouvernement moral de Dieu. Mais Dieu, dans l'Évangile, voici ce qu'il va dire en Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu. Pas qui enlève le pécheur, pas qui efface le nom du pécheur, mais qui efface le péché. Et là, ici, il y a une grande différence. Il faut comprendre, lorsque Dieu juge sur son gouvernement moral, et lorsqu'il nous reçoit en son Fils Jésus-Christ, qui est le juste, le seul juste que la planète a porté. Le juste dans toutes ses voies. Il y a encore du jus dans la grappe. Pour l'amour de vous, l'amour des serviteurs, Dieu est prêt à bénir votre pays. Dieu est prêt à bénir le Québec pour l'amour de ses serviteurs qui sont un peu partout au Québec présentement. Oui, c'est ce qu'il dit. Il l'a dit à Israël, il dit, si mon peuple sur lequel est invoqué mon nom, le peuple qui a l'identité de Dieu, il finit par quoi? S'il fait ça, s'il remplit ses conditions, quelle est la dernière chose que Dieu va faire? Je guérirai son pays. Il va jusque-là. Et vous pensez qu'il vous aime rien qu'un peu? On fait erreur. Il va jusque-là. Pour l'amour de son peuple, il est prêt à guérir le pays. Et notre pays, tout comme mon pays en Haïti, est-ce qu'on a-tu besoin de guérison? Dieu répond aux prières. Soyez fervents pendant ce mois-ci, que ce soit ici, dans les lieux ou chez vous. Dieu répond aux prières. Je vous laisse avec une petite anecdote. C'est un gars qui était de la vingtaine, mais il était un peu goujat. puis le genre de gars qui rentre et puis pousse le monde pour passer en premier. Et il avait de la misère à se trouver une fiancée. Et là, il a prié Dieu. Il a dit, « Dieu, j'aimerais que tu me donnes une dame pour épouser. » Et puis Dieu lui dit, « OK, je vais te le donner dans la trentaine. » Là, il est content, il attend le jour de ses 30 ans. Il n'y a pas encore de blonde, rien du tout. 32, 33, 34, 35, 39. Il n'y a pas encore de blonde. Et là, il perd patience. Il dit, « Dieu n'a pas répondu à ma prière, moi je prends les devants. » Et il monte sur la chair, il fait une offre. Il dit, « La première femme qui s'approche de moi, je le promets de le prendre pour épouse. » Et là, comme il est goujat, les femmes se regardent comme ça, il n'y a aucune cas. Tout d'un coup, il y a une vieille de 112 ans qui dit, « Merci Seigneur d'avoir répondu à mes prières, c'est lui que je voulais. »